Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est le 4 décembre, le mercredi et midi, presque 5, et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger avec vous ce midi à la tête de Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Et cette semaine, on a une table pleine. En plus de mes deux comparses habituels, on a un revenant qui est là, qui n'a pas de terrain aujourd'hui. Alexandre Racine, comment ça va?
Hey, ça va bien, toi?
Ça va bien. Salut Nathan, salut Hugo, comment ça va les boys?
Moi, ça va bien, toi?
Ça va bien. Très, très bien.
Hey, cette semaine, quand même une pas pire émission. On va avoir une chronique du garage avec Hugo. Je vais faire un petit peu d'actualité. Alexandre Racine va nous présenter le jeu de Fox Experiment. Et Nathan va nous parler des changements de D&D 2024 avec cette semaine le Rogue et le Ranger, je crois.
Exactement, on est rendu dans les R. On continue la descente alphabétique en enfer.
Grosse émission, fait qu'on commence tout de suite avec les chroniques et les nouvelles de la semaine. Si vous avez vu ça passer cette semaine, rassurez-vous, Elon Musk n'est pas vraiment dans le marché pour acheter Dungeons & Dragons. Oui, vous avez bien compris. Hein? The Great Enchantification semble ralentir. Oh, on va toucher du bois. Ben, sinon, on lancera Lawyers and Corporations ou quelque chose de même.
Ouais, à peu près.
Mais essentiellement, vous savez comment c'est un Edgelord sur X. Il a demandé, hey, ça coûte combien Hasbro? Qui achèterait un mat de...
Et ça, naturellement, ça a fait énormément d'enflammer sur Internet. Mais ça a pas tout parti d'un tweet, puis il n'y a rien eu de plus que ça.
Du moins pour l'instant.
Attends.
Hein?
Qu'on sache.
On va lui dire, regarde, les pratiques de schnout que tu veux instaurer sont déjà en place. Hein?
pas besoin de changer de dirigeant, sont déjà...
Ils se sont bien plombés eux-mêmes.
Oui, exactement.
Le tout a parti, évidemment, d'une fausse information qui était, il n'y avait pas mentionné que Gary Gygax était celui qui avait inventé D&D, ce qui est totalement faux. Mais parce qu'il y a un livre qui célèbre les 50 ans de D&D, dans lequel il en parle, mais c'est comme il est comme pas nommé dans ce chapitre-là. Quelqu'un a pris ça hors contexte, puis a dit « Wizard of the Coast, efface Gary Gygax ». Puis là, ben Musk, à place de checker comme d'être intelligent qu'il est supposé être, ben il a juste commencé à...
Le fact-checking, ça parle d'être une de ses forces.
Nous, vraiment pas. On a des bonnes nouvelles sur le front des Kickstarter. Si vous avez backé Clank Legacy 2, si vous n'êtes pas au Canada, il y a des chances que... Puis vous êtes aux États-Unis, il y a des chances que vous l'ayez déjà reçu. Vous commencez à arriver ce matin. Checkez vos courriels pour des tracking numbers.
Donc, une couple de semaines, puis le mot au Canada?
Non. Il y a eu un petit mishap avec le container qui avait un trou dedans. Il y a 40 jeux qui sont scrap, mais ça a l'air qu'il y avait assez de surplus que Dire Wolves sont capables de couvrir l'ensemble des pertes et... qui reste des jeux. Sinon, ils en ont beaucoup aux États-Unis, puis ils sont à Seattle, ils sont super proches de Vancouver, parce que les jeux sont arrivés à Vancouver. Ils restent shippés ceux-là. Fait que la seule chose qui peut venir nous empêcher d'avoir nos jeux pour Noël, c'est...
La grève des
postes. Ils ont dit que ça causait des problèmes, mais ils n'ont pas dit qu'ils utilisaient Post Canada comme courrier. C'est juste que s'il y a des endroits où vous n'avez pas de courrier comme... FedEx ou UPS, parce que vous vivez dans une région éloignée, ben là, oui, vos colis vont rester pognés dans l'entrepôt.
Mais la grande joie.
Vous devriez, d'ici Noël, avoir votre cadeau. Oh oui, j'étais excité.
C'est fun, ça, comme nouvelle.
La vraie vie a quand même aussi des conséquences sur notre hobby. Hein? On a tous appris avec choc et ou moins de choc qu'il y a un gros Cheetos géant qui va diriger le pays au sud du Canada.
À nouveau, encore, voir que ça se reproduit.
Monsieur a prévu imposer des douaniers de 20% sur tout.
Au Canada et au Mexique, parce qu'apparemment, on a les mêmes problèmes de drogue et de cartel qu'eux autres.
C'est ça, c'est pareil. Il y a Mais bon, on s'entend, si son ami Elon a pas beaucoup de fact-check, lui a pas beaucoup de nuances. Donc, c'est possible, si vous avez backé des Kickstarter qui vont arriver pendant la présidence de cet être totalement abject, que vous allez devoir payer ces pourcentages-là si vous êtes aux États-Unis. Et dépendamment...
Si le Kickstarter est aux États-Unis.
Oui.
Aussi.
Si le Kickstarter est aux États-Unis et que la marchandise est shippée aux États-Unis, mais la plupart du temps, les Kickstarters sont shippés directement dans le pays, justement à cause de ces enjeux-là. Puis c'est comme un peu lui qui a fait partir ça la dernière fois parce qu'il mettait des tarifs de même pour le fun. Bon, je commenterai pas plus, c'est complètement débile.
Oui, on n'a pas plus de temps de parler de politique que ça, malheureusement.
C'est chaud. Et dernière bonne nouvelle, parce que oui, c'est quand même des bonnes nouvelles.
J'aime ton sandwich.
John Watts, vous savez, le réalisateur des trois films de Spider-Man, Homecoming, No Way Home, puis l'autre, là.
Far From Home.
Ben, il a réussi encore un super bon coup avec les deux premiers épisodes de Star Wars, The Skeleton Crew, que j'ai eu le plaisir de regarder hier, qui sont respectivement ratés sur Rotten Tomato, 95% pour les critiques et 86% pour l'auditoire. Donc,
disponible sur
Disney Plus.
Okay. Naturellement, c'est Star Wars. Donc, ça va être sur Disney Plus.
À date, le feeling de l'épisode 1 que j'ai, c'est de Goonies dans l'univers de Star Wars, mais dans Star Wars Suburban. C'est vraiment il nous sort de Star Wars, mais juste en nous montrant une autre facette. Mais tu sais, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de puis, ben, ça fait du bien. Parce que ben on se remet tous encore de The Acolyte là, qui était très mal écrit, très revendicateur et très tout là.
Je les ai pas vus, mais j'ai eu beaucoup de mauvais retours sur les récents épisodes de Star Wars en général.
C'est comme s'il y a une intersection entre les mauvais écrivains puis les écrivains qui sont edgy un peu, puis qui veulent toucher à des sujets là, de justice sociale, trucs comme ça, puis ça n'a pas été une bonne recette pour Disney en général.
Non.
Dernière nouvelle, Pat Gelsinger, le CEO de Intel et Bob Iger, c'est le gars qui était supposé sauver Intel, s'est fait foutre dehors. Donc, j'espère qu'il n'y avait pas d'action d'Intel.
Bon. non.
C'est tout pour les nouvelles. Désolé si j'ai fait ça long.
Mais bon, il y avait beaucoup à couvrir. Hein?
Oui, de grosses semaines. Grosses semaines, considérant qu'il y a des semaines où il ne se passe rien. Fait que je pense que c'est maintenant l'heure de commencer l'intro du garage. Mm-hmm. Puis on va faire une petite pause après. Fait que Hugo.
Ouais, comme présenté cette semaine, je vous parle de Wargame. J'en ai beaucoup à couvrir. Ça se peut qu'on présente pas toutes, mais comme les Wargames, c'est très long à en parler.
C'est très un thème.
Ouais, c'est ça. Les Wargames, pour ceux qui sont un peu moins au courant de quoi je parle quand je veux parler de ça, en gros, c'est des jeux de combat, d'affrontement, où vous allez avoir des troupes, vous allez avoir des minis sur une map, et votre but va être de conquérir, de vaincre, de prendre des positions, d'acquérir plus de points de victoire que vos adversaires au travers de combats et d'escarmouches.
Donc, risque que tout le monde connaît, ou presque.
Le plus standard risque qui est vraiment le plus reconnu dans tout ça, mais qui n'est définitivement pas le seul sur BGG.
J'argumenterai que les échecs.
Oui,
c'est le premier Wargame ever.
J'allais y l'aborder. Mais entre autres, les échecs, c'est pas ça qui manque. Si vous voulez de l'inspiration sur BGG, il y a des tier lists au complet de plus de centaines de jeux. Dans les plus notables et remarqués, Twilight Struggle, Path of Glory, D.D. at Omaha Beach, Empire of the Sun, mais si jamais vous voulez de quoi d'un peu plus donc qui se basait sur des vrais combats, du côté plus fantaisiste, War of the Ring, dans le monde du Seigneur des Anneaux, Root, Twilight Imperium, ou encore Dune, War for Arrakis, dans l'univers de Dune, naturellement.
J'ajouterais également, si vous voulez, de la fantasy ou de la science-fiction, il y a l'ensemble Warhammer au complet qui peut être considéré comme un wargame plus compliqué.
Effectivement.
Il y a même plusieurs boîtes spécifiques de wargame dans l'univers.
Mm-hmm. Pour les wargames, ce que j'ai trouvé, c'est que ça se sépare bien en trois grandes catégories, chacun avec leurs attraits et leurs inconvénients. Le tout premier sont les combats tactiques, où ça va être généralement de petits combats, de petites escarmouches. Vous allez contrôler des unités, des soldats individuels que vous allez devoir répartir. Ensuite, on grandit en taille, donc on tombe dans les combats opérationnels, où ce sera généralement une petite guerre ou une campagne militaire au sein d'une guerre plus grande. Quand on parle de D-Day at Omaha Beach, ça y réfère un peu plus dans celui-là, ou encore Empire of the Sun de Pacific War. Les troupes vont à ce moment-là être un peu plus grandes, des bataillons, des unités au complet. Et finalement, on tombe dans les combats stratégiques, risque, dominer le monde, conquérir la map au complet, une guerre majeure, et vous allez généralement contrôler des armées au complet. Là.
On va poursuivre cette description après la pause. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. On allait à la pause. Hugo a commencé à nous parler des wargames.
Mm-hmm. Donc, on discutait comment il y en avait des plus petits, des plus gros. À présent, pour clarifier un peu plus, là, soyez conscients que si jamais vous voulez vous embarquer, la grande, grande majorité des wargames, c'est long. Hein, on se le cachera pas, là. C'est beaucoup de pièces, c'est beaucoup de composantes, c'est beaucoup de règles. C'est sur une longue durée, généralement, là. Si vous pensez à risque, il peut aller sur des heures et des heures. Mais que même des plus petits vont généralement durer quand même assez longtemps.
Mais il y en a des
exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, naturellement, comme dans tout, là. Quand on a plus des centaines de jeux, naturellement, qu'il y en aura des plus rapides. En général, vous risquez d'en tomber. Vous avez plus de chances de tomber sur des gros. Vous allez généralement combattre lorsque des troupes vont se rencontrer, combattre en roulant des décontestés, en roulant des probabilités, en piochant des cartes ou en regardant une table de résolution. Mais le principe est que vous allez devoir acquérir certains objectifs. Comment donc faire pour avoir plus de chances à vaincre? Quelles sont les bonnes stratégies? Le tout premier que j'ai trouvé en ligne puis qui m'a surpris, puis quand ça j'ai été voir, qu'il fait absolument énormément de sens, allez lire sur les vrais combats. Parce que, veut pas, les wargames sont inspirés de vrais combats dans la plupart des cas, ou à tout le moins basés sur des stratégies de combat qui existent pour de vrai. Donc, on nomme les grands noms, là, Sun Tzu, l'art du combat, là, c'est haut historique, mais c'est pas... T'sais, les grands principes de combat restent les mêmes, que ce soit des vrais combats ou des combats sur un jeu de table.
Je dirais même que Sun Tzu, là, si vous ne l'avez pas lu, c'est très inspirant at large, pas juste dans le domaine de la guerre.
Ouais. Donc, si jamais vous vous sentez un peu coincé, que vous savez, vous êtes un peu mélangé sur où aller en termes de stratégie dans un jeu spécifique, parce que naturellement, la plupart des jeux sont assez uniques, vont avoir des mécaniques uniques. Si jamais le jeu se base sur une situation réelle, aller lire sur qu'est-ce qui s'était réellement passé dans ce monde-là, quelles étaient les stratégies qui avaient fonctionné. Souvent, les créateurs du jeu vont s'inspirer de ces stratégies-là pour former de quoi de viable. Donc, si vous les connaissez vous-même, vous allez pouvoir les répliquer. Ça va généralement entraîner des effets positifs.
Si les dés sont sur votre côté, dans un système de dés, naturellement.
Oui, c'est sûr. Il y aura souvent un élément de chance. Ce qui amène donc au tout premier principe du combat, là, le plus basique. La défense est plus forte que l'attaque. Ce qui signifie que quand vous allez vouloir vous battre, oui, il y aura une probabilité. Oui, vous avez une chance qu'avec très peu d'unités, vous puissiez vaincre un énorme bataillon. Les probabilités ne sont pas de votre bord. Si vous voulez avoir une chance statistique probable ou être pratiquement garanti de gagner et que vous attaquez, vous devez avoir une force supérieure, largement supérieure à la force qui se défend.
En doctrine militaire standard, on parle de guerre en Ukraine et ces trucs-là, là, c'est 3 pour 1. Tu vas être au moins 3 fois plus nombreux que tes défenseurs pour avoir une chance là, de gagner, que ce soit pas une victoire pyrrhique.
Parce que généralement, la défense a le temps de se préparer dans son point de défense. Là, c'est ça. Eux sont là depuis plus longtemps, donc ils ont des points stratégiques déjà à eux.
Ils ont des avantages que tu n'auras pas en arrivant.
Exactement. Donc, toutes les stratégies que j'ai proposées par la suite sont simplement des variations sur comment percer une défense ou comment bien te défendre face à quelqu'un qui veut t'attaquer. Parce que les wargames vont généralement se résumer à ça, qui est en mesure de faire les meilleures défenses quand ils sont attaqués, puis contre-attaquer de la manière la plus effective. Parce que, à moins de certains jeux très spécifiques où tu es barré dans te défendre ou juste attaquer, vous allez souvent avoir l'opportunité, la chance d'attaquer, de vous défendre et d'alterner entre ces deux moments-là. Quand vous êtes fort, quand vous avez bien placé vos unités, vous faites une poussée, vous faites une attaque. Quand vous êtes rendu plus faible ou les gestes sont revirés contre vous, vous vous repliez sur une position défensive de votre côté. Donc, si jamais vous retrouvez dans une situation mal prise, continuez de pousser alors que vous n'avez pas les bons ratios, alors que vous n'avez pas les chances, va généralement mener à la défaite. Sachez que ça ne vaut pas toujours la peine de pousser pour aller chercher une victoire de plus, une case de plus, un ou deux points de victoire de plus, si c'est pour scraper le restant de votre game, parce qu'en ça, vous n'aurez plus assez d'unités. À l'inverse, ne soyez pas que passif en défense, parce que à ce moment-là, les troupes vont s'agglomérer et vont finir par vous surpasser. Il faut savoir contre-attaquer et ne pas être que passif. Pour ce qui est du contrôle du terrain, la plupart des jeux vont être sur une map où vous allez répartir vos unités, vos miniatures, et vous allez à ce moment-là avoir des flancs, des zones de contrôle et des zones d'exposition. Dans les points recommandés, renforcez donc les goulots d'étranglement. Dans la plupart des lieux, si jamais vous êtes sur un coin de la map, les personnes ne peuvent pas vous accoter, ne peuvent pas aller passer derrière vous s'il n'y a plus de cases derrière vous.
Ou s'il y a des obstacles naturels, dépendamment du jeu, une montagne ou une supernova.
Exactement.
On pense à risque au Brésil ou au Mexique.
Oui, le Mexique est un bel emplacement. Si tu réussis à voir l'Amérique du Sud au complet, tu renforces le Mexique, puis les 2-3 points d'attache qui sont généralement là, par bateau, et tu t'es quand même fait un conclave assez renforcé là, dans ces coins-là.
Mm-hmm. Donc, placez vos troupes de manière à protéger ces goulots d'étranglement-là et tentez de ne pas faire des percées linéaires, d'aller conquérir, par exemple, traverser, si jamais vous voulez faire une percée, par exemple, en Allemagne, parce que vous jouez un wargame sur la Première Guerre mondiale. Si vous faites une percée, mais qu'en dessous de ça, vous avez juste une grande ligne de contrôle de terrain. Elle va se faire recouper par elle-même. Elle va être coupée de toutes vos ressources et vous allez finir par juste tout avoir fait ça pour la reperdre.
C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Par exemple, des habilités qui permettent de se déplacer, mettons, en avion ou par-dessus des troupes qui pourraient ignorer les flancs. Puis il y a aussi des fois où prendre un lieu stratégique, même si ça va forcer une poussée qui va nécessairement s'écrouler sur elle-même, peut valoir plus de points que de ne pas.
Effectivement.
On peut penser aussi à des systèmes comme risque, où est-ce que chaque fois que tu réussis une attaque, tu vas gagner une carte. Mmh. Puis c'est en échangeant ces cartes-là que tu fais tes motons d'armée.
Ou est-ce que tu recrutes des troupes.
Ce qui amène donc, justement, faites attention à ne pas exposer trop vos flancs. Tentez de contrôler les régions. Et avant de pousser pour en contrôler plus, si jamais vous avez à contrôler du terrain, à faire attention pour ne pas avoir trop réparti vos forces. Parce que si plus que vous contrôlez du terrain, plus vous devez défendre du terrain. Ce qui fait en sorte que, éventuellement, si vous vous prédez trop, vous n'allez plus être en mesure de vous défendre à un point particulier. Un conseil inspiré du guide de combat de 1989 de l'armée des États-Unis sur les principes de guerre. Vraiment, là, quand je vous dis allez lire sur la guerre, ce que je me prête à vous dire là, c'est littéralement des principes qui ont été émis pour ça. Là. En attaque, la meilleure manière est d'alterner entre concentrer et disperser vos troupes. Si jamais vous avez plusieurs unités, vous voulez aller chercher un point stratégique comme le mentionnait Alex, eh bien, il faut que vous allez ramasser vos troupes. Naturellement, oui, ça va causer un risque. Si vous rassemblez toutes vos troupes à un point, ils ne sont plus ailleurs pour défendre. La rapidité est donc de mise et l'élément de surprise. Si votre adversaire ne s'y attend pas, il n'aura pas le temps de répartir ses troupes lui-même, de profiter de la vulnérabilité ou encore de se défendre contre l'attaque qui s'apprête à se produire. Donc, alternez, rassemblez vos troupes, attaquez, puis redistribuez-les.
Si vous pouvez, bien sûr.
Si vous le pouvez, bien sûr. Il y aura souvent des mécaniques pour le déplacement des unités. Parfois, déplacer plus d'unités va coûter plus de ressources, ce qui est donc une réflexion à dire, est-ce que ça vaut réellement la peine que je m'en amène 2-3 de plus au prix que ça coûte ou aux actions que ça coûte? Enfin, ça va aussi dépendre de c'est quoi le type de jeu que vous avez. C'est pas tous les jeux que... Oui, on parle de risque pas mal, que le but, c'est de conquérir le monde au complet. Mais ce ne sera pas tous les jeux qui vont requérir que vous contrôlez le monde au complet.
La plupart des titres modernes ont compris que c'était comme long et plate.
C'est ça, c'est long et plate, mais on revient au standard, à l'autre que vous connaissez bien, les échecs, qui est un wargame. Votre but est de capturer une pièce. Oui, le jeu va être centré autour de ça, mais dans d'autres, ça pourrait être de capturer un bâtiment ou un point de contrôle que l'adversaire possède. Quand on parle de Star Wars, de trouver le chef rebelle et l'exécuter, ou d'autres. Donc, acquérir vos troupes et pousser pour ce qui va vous faire gagner. Oui, aller chercher des troupes sur le côté, aller chercher des side objectifs, conquérir plus de terrain, mettre plus de pression, c'est bien. Mais ce ne sera pas toujours ce qui va vous faire gagner.
Je pense au jeu de Game of Thrones, Song of Ice and Fire.
Song of Ice and Fire, de mémoire, c'est aussi un RPG, là, mais oui. Je ne sais pas s'il y a un jeu de société également.
Oui, on l'a au club même. L'idée étant de prendre juste une quantité de territoire de l'ennemi, mais pas trop. Je pense que c'est... tu doubles même pas ton terrain par rapport au début, puis la partie est finie, là. C'est quand même un board game qui est assez long, là, qui est assez complexe.
Dans mes conseils, oui, on mentionnait que l'attaque est la meilleure défense, mais il y aura des moments où vous allez vous ramasser en défense vous-même, où vous allez être pris d'assaut, où vous allez devoir vous défendre. À ce moment-là, les stratégies que j'ai pour vous, naturellement, repliez-vous, faites les mêmes choses, gardez vos flancs serrés, renforcez les zones que vous jugez critiques à devoir conserver. Au pire, faites des concessions si ça fait en sorte que ça va vous permettre de revenir en jeu plus tard.
Dépendamment du jeu aussi, il est possible de parler à la table avec les personnes
absolument.
En disant « Je vois que tu es capable de prendre quelque chose, je vais te laisser ça sans perte, mais je veux pas que tu attaques ça. »
Voilà.
Ça peut être fait.
Surtout s'il y a plusieurs joueurs.
Ce qui était le conseil que je me prêtais à dire, qui revient pas mal à ça, ne pas paraître comme une menace, surtout si vous jouez à plusieurs joueurs, à deux, naturellement, vous allez toujours viser l'autre personne.
L'autre est la menace.
Mais à 6, c'est facile de dire « Ah, mais moi, c'est pas moi la menace. Attaque d'autres, l'autre personne à côté. »
Rediriger les feux ennemis.
Jusqu'à ce que vous soyez prêt vous-même à pouvoir attaquer. Le tout dernier que j'ai à vous offrir, c'est de surveiller le mouvement de vos adversaires. T'sais, on dit « Rassemblez, dispersez-vous. » Il y aura des moments où, quand l'adversaire fera ça, il y aura des points faibles. Si vous êtes en mesure de prédire que il vise la planète centrale, par exemple, à Twilight Imperium, je sais qu'il va envoyer toutes ses troupes pour le conquérir, ce qui signifie qu'il n'y aura aucune troupe pour défendre sa planète natale, ce sera le moment de l'attaquer. Si vous êtes en mesure de prédire ce type d'action et tenter de deviner leurs intentions va vous permettre de vous préparer à une attaque surprise en conséquence.
Un excellent conseil, mais souvent plus facile à dire qu'à faire, parce
oui,
que ces
absolument.
Jeux sont excessivement complexes et juste penser à tes actions peut te demander beaucoup de réflexion. Mais quand tu y arrives, ça fait la différence entre un bon joueur et un excellent joueur.
Faut voir en avance ce qui va se passer. Merci Hugo.
Ça fait plaisir.
On va aller à la pause, puis au retour, Alex va nous présenter The Fox Experiment. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion sur les jeux de rôle, les jeux de société et la culture geek. Avant la pause, Hugo nous a présenté les stratégies pour gagner dans les wargames. Et maintenant, on a un biologiste qui vient nous parler d'un jeu qui s'appelle The Fox Experiment. Le biologiste, c'est Alexandre Hassin, bien sûr.
Ben oui. Donc, en parlant de culture geek, moi, je vais vous emmener geeker dans mon domaine. Ça se passe dans la fin des années 1900. Il y a des scientifiques russes qui se sont posé la question « Hey, il y a des gens qui ont domestiqué le loup un peu partout sur la planète en choisissant les loups qui étaient moins agressifs, en les nourrissant puis en les reproduisant entre eux pour faire des loups de moins en moins agressifs, puis de plus en plus fun. » Puis après ça, il y a des gens qui sont allés dans les extrêmes puis qui ont fait des chihuahuas.
qui ont remis l'agressivité dans
les chiens saucisses, des pugs, you name it.
Tout a été fait. Mais tout ça a été fait semi-consciemment par des gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Maintenant, on a des outils génétiques. On a des analyses, puis on est capable de faire de la science vraiment plus avancée. Combien de temps ça nous prendrait faire ça avec un autre animal? Mettons, un renard. Fait qu'ils ont choisi des renards sauvages, puis ils se sont lancés dans l'expérience, dans plusieurs laboratoires séparés, de domestiquer le renard. En choisissant ceux qui étaient moins agressifs, ceux qui avaient un jappement plus intéressant que le cri du renard. Pour ceux qui ont entendu la toune, vous savez de quoi je parle, sinon c'est horrible. Donc, ils ont choisi des traits qu'ils aimaient parmi les renards pour faire des renards de plus en plus domestiques. Et ça a réussi. Il existe en ce jour des colonies, des élevages de renards domestiques qui ressemblent à des mini border collies, mais qui sont des renards. C'est vraiment cool, et ça a inspiré le jeu de société The Fox Experiment. Dans ce jeu-là, chaque joueur représente un de ces laboratoires-là qui essaie de domestiquer le renard. Vous commencez avec des objectifs, comme quoi vous voulez avoir, mettons, un meilleur son puis une plus belle queue. Je dis n'importe quoi, mais c'est deux des quatre objectifs du renard. Donc, vous allez choisir des renards sauvages qui sont sur la table pour avoir ces traits-là un peu plus et les faire se reproduire entre eux en roulant des dés. Donc, chaque renard a un certain nombre de dés pour chaque trait. Au début, il y a un ou deux traits. Et on roule ces dés-là. Puis sur les dés, il y a des demi-cercles et des cercles. Si on arrive à former un cercle, soit qu'il y a un cercle sur le dé, ou qu'on colle deux dés qui ont un demi-cercle, on a un point de ce trait-là. Puis ça, ça va déterminer le bébé qui est né de cette alliance, de cette union-là. Et on va faire le jeu comme ça sur cinq manches, je crois, où à chaque fois, on va prendre ces bébés-là puis les rajouter dans le pool des renards qui sont disponibles. Donc, nos bébés qui sont de mieux en mieux, qui ont une plus belle queue puis un jappement plus intéressant.
Donc, ils auront de plus en plus traits-là, auront de plus en plus de chances de le propager.
Et donc, donner plus de dés à brasser. Mm-hmm. Donc, ces dés-là vont nous permettre éventuellement d'avoir des objectifs de plus haut niveau avec des renards encore plus intéressants. Et on additionne la somme de tous ces traits-là pour aussi faire l'adorabilité du renard, le score général du renard.
Le general cutiness.
Ouais. Donc, ce score-là va servir à déterminer qui c'est qui fait le plus de points sur son renard. Puis, il y a des objectifs sur le board avec certains traits. Il y a la première personne qui passe son tour, par exemple, peut aussi choisir un bonus pour le prochain round. Puis, chaque fois qu'on va obtenir un certain nombre de dés sur notre bébé, ça va nous donner des dés pour ce bébé-là plus tard, mais ça va aussi nous donner des tokens de points de ça. Par exemple, un token de queue, un token de jappement, un token de spot sur la plume, le plumage.
La fourrure.
Et un quatrième que j'ai oublié. Donc, ces tokens-là, on peut les utiliser, si on en a deux pareils, pour acheter un bonus sur le board. Ces bonus-là peuvent être, par exemple, un démystère. Ce démystère-là, quand on le brasse, c'est rien, mais il y a des cercles et demi-cercles dessus qu'on peut associer à n'importe quel autre dé. Donc, ça permet d'aller chercher plus de traits. Ça permet d'aller chercher donc des meilleurs scores. On peut aussi aller chercher des nouveaux objectifs pour notre laboratoire. Par exemple, on avait notre jappement et notre queue au début. Puis là, on peut pogner un objectif de jappement et pelage. Puis là, on a deux objectifs, donc on peut faire plus de points en même temps. Puis une autre des affaires qu'on peut aller chercher, c'est avoir plus de bébés par portée. Si on a plus de bébés par portée, chacun de ces bébés-là peut avoir un des objectifs à lui-même. Donc, on peut scorer deux ou trois objectifs dans la même génération de renards. Le jeu est super simple, vraiment facile à apprendre, très instinctif, un peu basé sur la chance, oui, parce qu'on brasse des dés, mais cette chance-là peut être faite puis améliorée selon les objectifs que tu as pris puis les dés bonus que tu places. Parce que si un dé bonus a deux demi-cercles qui ne se touchent pas, tu peux le mettre entre un dé brun de pelage puis un dé rose de queue pour faire un cercle brun puis un cercle rose avec les deux autres dés sur ton dé mystère. Donc, tu as une certaine flexibilité avec ça. Okay. C'est vraiment fun, puis... Super simple à expliquer et c'est basé d'un fait biologique que moi je trouve vraiment génial, la domestication du renard.
Donc, en tant qu'enseignant, si je veux montrer la génétique à mes élèves, je peux les faire jouer à Fox Experiment pour introduire la génétique.
Tout à fait, ça fonctionne très bien. Puis il y a même une règle alternative variante comme quoi, si on produit deux bébés puis qu'on les met dans le pool bébé et que ces bébés-là, ça donne à être un mâle et une femelle puis qu'on les reprend pour la génération suivante, il y a un principe de consanguinité qui est une règle optionnelle que si les deux bébés viennent de la même ferme, les bébés qui vont produire vont tous perdre deux dés. Donc ça aussi, c'est une belle introduction à la génétique, okay. Comme quoi ça peut causer des problèmes de faire accoupler des spécimens de la même famille.
Comme la dysplasie de la hanche ou des problèmes gastriques.
Qui sont arrivés dans des communautés chiens.
Tous ces beaux problèmes-là qui sont... Le problème général d'à peu près toutes les races pures de chiens
ou de chevaux.
Mm-hmm.
Donc, oui, un super jeu qui se joue rapidement, qui s'explique bien, puis qui peut effectivement être utilisé pour parler de génétique.
Stade vital 7.4 sur BGG, 1 à 4 joueurs, une partie dure à peu près 1 heure, avec un crunch de
2.52 sur 5.
Quand même.
Donc, pas si pire. Il y a de la complexité. Tu peux y aller en profondeur, développer des stratégies, mais
ça s'explique très bien en roulant des dés et en regardant ce que tu obtiens.
Je reste quand même le gars de mécanique. C'est quoi les mécaniques de ce jeu-là pour les gens intéressés?
C'est sûr qu'avec le brassage de dés, il y a un certain push your luck in a way, parce qu'il y a certaines mécaniques qui permettraient de rerouler des dés.
Okay.
Donc, si tu as ces mécaniques-là, tu peux
prendre plus de risques,
faire mieux. Il y a une mécanique d'attribution des ressources, les dés mystères qui peuvent être choisis d'être attribués pour certaines affaires. Parfois, tu as des tokens mystères qui sont à usage unique, mais que tu pourrais décider, OK, j'ai vraiment besoin d'aller chercher mon dé rose de plus. Fait que je vais prendre mon token mystère pour compléter mon dé rose. Donc, il y a aussi une espèce de placement d'ouvrier avec le premier qui termine son tour ou qui choisit de prendre ce bonus-là. Parce que dans le fond, au début d'un tour, il y a trois choix à faire. Un mâle, une femelle pour l'accouplement et le bonus de fin de round, si on veut, l'emplacement pour le prochain round. Puis ça te donne un bonus dépendamment de quel tu prends.
Fait que donc, les grandes mécaniques qu'on connaît, qu'on a expliquées, Dice Rolling, Endgame Bonus, du Open Drafting, puis du Claim Action en fonction de l'ordre de tour.
Tout à fait. Voilà. Oui, j'avais oublié comme le draft des renards sauvages et des bébés disponibles et publics. Puis chaque personne va en enlever un à son tour, donc...
Hey, short and sweet. Merci beaucoup, Alex.
Ben oui. Puis c'est ça. Je recommande tous ceux qui veulent l'essayer. C'est une nouvelle acquisition du club.
Oui.
Puis son score sur BGG est probablement encore en train de monter, étant donné que ce jeu-là est sorti en 2023.
Oui, effectivement. Ça prend un an et demi à deux ans avant de s'atteler. Puis tu sais, c'est en fonction du tirage du jeu, s'il y en a eu beaucoup d'imprimés et vendus. Et...
Donc.
Mais c'était une recommandation là, d'une personne qui travaille dans un marchand local gentil de jeux de société. Puis on est très content en date. J'ai pas encore joué personnellement, mais j'ai bien hâte d'essayer. Alors, c'est maintenant l'heure de parler des deux R.
Yep.
Le Rogue.
Le Ranger.
Vont écrire rouge. Puis le Ranger, donc...
Peu importe, il devrait pas être trop long à présenter. Donc, je vais commencer quand même par le Ranger.
Le Rogue.
Tu veux que je commence par le Rogue?
Oui, c'est le moins long.
Bon, le Rogue. Peu de changements pour le Rogue. Obtient de facto Steady Aim, qui était une règle optionnelle dans le Tasha. C'est juste que là, ils l'obtiennent de facto au niveau 3.
Steady Aim qui permet de se donner avantage pour une bonus action.
Oui, mais tu ne dois pas bouger dans ton tour. Donc, la nouvelle mécanique, en fait, c'est ce qu'on appelle le Cunning Strike. Donc, quand tu fais le Sneak Attack, qui est le feature du Rogue, donc le Rogue est connu pour son Sneak Attack.
Qui fait bien des dégâts, là.
Une fois par tour, si tu as avantage ou que tu as un allié proche,
Tu roules un tas de D6.
Cunning Strike, ce que ça fait, c'est que tu peux échanger un nombre de D6 de ton sneak attack pour ajouter un effet autre. Par exemple, tu peux sacrifier un D6 pour obtenir l'effet dash sur ton sneak attack. C'est-à-dire que tu obtiens l'action désengage à la moitié de ton mouvement gratuitement en fonction de ton... En lien avec ton attaque.
Wow, t'as tellement bien stabé ce gars-là que tu peux te reculer gratuitement.
Exactement. Il y a des actions comme le poison ou rendre la personne en avant de toi qui est prone, donc ça veut dire que tu le fais trébucher. Et c'est grosso modo des gros changements.
Pour 4D, on peut le rendre aveugle, c'est ça?
Pour 3D, on peut le rendre aveugle. Pour 6D, là, je me rappelle plus par cœur.
6D qui va donc nécessiter un niveau 9.
9 au minimum, puis avec ça, tu fais autre chose. Mais il y a plein de trucs que tu peux faire et ça l'augmente en fonction des niveaux.
Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut, ce Cunning Strike-là?
C'est tant que tu fais une sneak attack.
C'est ça. Donc on fait moins de dégâts pour avoir d'autres effets bonus.
Exactement. Donc le Rogue reste ce qu'on appelle dans la communauté sans ressources, puisqu'il peut toujours faire toutes ses habilités autant de fois qu'il veut par jour.
Exactement. Ils ont rajouté une petite phrase à évasion. Parce qu'avant, évasion, c'était juste... Si tu es dans un spell qui a une zone avec une save de dextérité, bien tu prenais pas de dégâts si tu réussissais le jet. Et bien maintenant, ils ont rajouté qu'il faut que tu sois conscient pour pouvoir éviter les dégâts. Si tu es incapacitated, tu ne peux pas éviter les dégâts.
C'est
une règle maison
parce
de tout le monde.
Si tu échouais, tu prenais la moitié du dégât.
Ouais.
Mais quand tu échoues inconscient, tu échoues. Ça a du sens.
En fait, c'est que tu peux juste plus utiliser l'habileté. Au niveau 11, tu obtiens d'autres utilisations de Cunning Strike et encore une fois la même chose au niveau 14. Et un petit changement de niveau 20 pour le Stroke of Luck, qui est en fait, avant tu pouvais, quand tu échouais une attaque, décider qu'elle réussisse. Et quand tu échouais un jet de skill, tu pouvais avoir un 20 sur ton dé à la place, une fois par jour. Une fois par short rest, donc plus qu'une fois par jour techniquement. Eh bien maintenant, ils ont enlevé la plupart des mots pour dire « Sur un test de D20, si tu échoues, tu peux avoir 20. »
Une fois par short rest.
Une fois par short rest. Ce qui veut dire qu'une fois par short rest, dans un combat, tu peux réussir un critique avec tes 10 de 6 de sneak attack.
Ce qui donc double les dés, ce qui fait vraiment mal.
Une chance que c'est niveau 20.
Oui, une chance.
Okay. Au niveau 20, ce soit correct. Là,
Le wizard est capable de bender la réalité et avoir
8 clones.
Ouais. On a perdu un peu cette phrase-là. Mais oui, à ce niveau-là, effectivement, toutes les classes sont quand même un peu brisées. Hein.
Sinon, tout est la même chose. Je vais vous passer de l'air classe qui n'est pas brisée niveau 20 après la pause.
Mais c'est ça, on va aller payer quelques comptes, puis ben on vous revient après la pause. De retour en onde à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Et avant la pause, Nathan nous a présenté en 5 minutes les changements au Rogue dans D&D 2024. Il n'y en a pas beaucoup, on s'entend.
Ouais, ben c'est pour ça que ça a juste pris 5 minutes. Là. Il y a pas grand-chose.
Mais là, on a 11 minutes 30 secondes qui nous reste pour parler de l'accident de train qu'est le Ranger.
Oui, mais en fait, ils ont pris une classe qui n'était pas bonne. Ils ont pratiquement changé toutes ses habiletés et elle n'est toujours pas bonne. Donc, tu sais, c'est... Ton micro est bas.
Mais c'était même pas bref. Particulièrement compliqué. Les fixes existaient. Là. Il avait fait une patch non officielle de Revised Ranger.
Ah oui, je sais. C'est... Tout était là pour l'améliorer, mais ils l'ont pas fait. Donc, petit changement mineur qui ne change pas grand-chose, tu obtiens ton spellcasting niveau 1 au lieu de 2.
Wouhou!
Ouais. Pas pour. Donc, ça change pas grand chose. Gros changement à Favored Enemy. Donc, maintenant, au lieu de choisir un monstre genre dragon ou abyssal dans lequel tu as des avantages pour le traquer et des avantages pour te rappeler des informations sur le monstre, eh bien, maintenant, tu obtiens Hunter's Mark gratuitement. Tu peux lancer le sort deux fois sans utiliser de spell slot.
Sur tout le monde.
Sinon, okay. C'est tu obtiens Hunter's Mark et tu peux le caster deux fois gratuitement.
Qui est un sort de niveau 1, normalement.
Oui, c'est ça.
Ton favorite ennemi, c'est utiliser Hunter's Mark pour dire lui, je l'aime pas.
Ouais, exactement. La quantité d'utilisation de Hunter's Mark gratuite augmente avec les niveaux. De mémoire, tu finis à peu près avec 10 utilisations d'Hunter's Mark gratuite.
Ça fait un certain sens parce que le Ranger, généralement, est celui qui s'occupe des créatures pas fortes. Là.
C'est ça. Donc, ça, c'est le changement Favorite Enemy. Le Ranger obtient Depth Explorer.
Une bonne feature de Tasha, je suis content qu'il soit là.
Oui. Qui, en fait, lui donne expertise dans un skill dans lequel il est proficient et deux langages connus.
Okay. Donc, ça, c'est au niveau 1.
Ça, c'est. Oui, c'est. Depth non, Explorer niveau 2, Depth Explorer.
Oui, mais Depth Explorer revient au niveau 6 avec un beau cadeau.
Non, niveau 9 avec expertise. C'est juste expertise. Depth Explorer est uniquement niveau 2. C'est ce que j'ai checké ce matin. Là. C'est un...
Il n'y a pas le bonus de mouvement aussi?
Oui, mais c'est pas avec le même truc. Okay. Ouais. dans les fighting styles possibles pour le Ranger, on peut maintenant avoir le Druidic Warrior qui te donne en fait accès à deux cantrips de druide.
Oh, attention! C'est tellement fort, les cantrips de druide.
Ben oui.
Shine Lily, puis...
Magic Stone.
Le fouet.
Il y en a d'autres aussi qui sont plus des jets de dégâts.
Il y
a un nouveau cantrip que j'ai vu, que je vais parler probablement dans l'émission de la semaine prochaine pour les sorts, qui est plus intéressant qu'un cantrip de druide. C'est genre le Eldritch Blast du druide.
Okay.
Donc ça peut être intéressant, c'est qu'il augmente en niveau. Niveau 6, on obtient Roving.
C'est ça le nom.
Augmentation de ta vitesse de 10 pieds. Et maintenant, ton climbing speed et ton swimming speed sont égales à ta vitesse de déplacement.
Même si tu n'en avais pas initialement.
Exactement. Ouais, tu nages et tu montes à la même vitesse que tu marches.
Du jour au lendemain, on devient Georges de la jungle.
Exactement.
Tout terrain. Le Ranger tout terrain.
Tu deviens 4x4.
Oh, ouais,
ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. On n'a plus accès à Primal Awareness, donc qui te permettait de détecter les ennemis d'un type dans un rayon de 1 miles autour de toi, c'est si t'étais dans ton favorite terrain, mais t'as plus de favorite terrain. Fait qu'ils ont juste fait...
Et plus de favorite ennemi non plus.
Et plus de favorite ennemi. Fait que c'est comme... Meh, on s'en fout.
On s'entend, était à l'époque genre un point un peu de discord, là, au sens de dire si tu choisissais mal ou si avec ton DM, finalement, il ne mettait pas ce que tu avais choisi, tu te ramassais avec deux features qui ne servaient absolument à rien. Là.
Ou si c'était bon pendant la première partie de la campagne, puis que là, vous faites autre chose. Genre, tu as pris gobelin en tiers 1, mais là, tu es rendu en tiers 2, puis il n'y en a plus de gobelin. Ben.
C'est fini. Ouais.
Niveau 9, on obtient expertise, donc ça veut dire que tu vas obtenir l'expertise sur deux nouveaux skills. Pour refaire la blague où le ranger est un mauvais rogue. Mm-hmm. Ils ont continué de perpétuer cette blague-là. Niveau 10, tu obtiens Tireless, qui est un des features relativement intéressants du ranger. Ça te permet d'obtenir du temp HP, mm-hmm. un des 8 plus wisdom. Puis en short rest, tu peux diminuer un niveau d'exhaustion.
Donc le ranger n'a plus besoin de dormir, juste besoin de faire un petit repos d'une heure.
Un petit nap, là.
Donc c'est ça.
C'est pratique pour la fantaisie de « c'est moi qui surveille le feu de camp le soir ».
Mais c'est tout. Niveau 13, Relentless Hunter. Hunter's Mark est un sort de concentration, donc si tu reçois des dégâts, tu devais techniquement lancer un jet de constitution et si tu échouais, tu perdais ta concentration. Eh bien maintenant, Hunter's Mark ne peut plus être brisé quand tu reçois des dégâts.
Au niveau 13.
Au niveau 13.
C'est loin quand même, là. C'est,
La plupart des parties ne se rendent pas, à moins de commencer au niveau 10.
Donner un ordre de grandeur à Baldur's Gate 2. À 3, les personnages, le niveau cap au niveau 12.
Ouais.
Niveau 13, on commence à jaser. Là, on commence à parler de héros pas mal boostés. Là.
Donc, niveau 14, ils ont transformé Vanished in Hidden Plain Sight par Nature's Veil. Avec une bonus action, dans ton tour, tu peux devenir invisible jusqu'à la fin de ton prochain tour.
C'est définitivement mieux que prendre une minute pour être immobile sur une roche.
Oui.
Mais c'est rien à côté de ce que n'importe quel spellcaster est capable de faire et avec n'importe quel spell.
Et c'est niveau 14 aussi. Hein. True Invisibility est dans ces coins-là pour le Wizard aussi.
Greater Invisibility, ils ont accès depuis genre 3 niveaux.
Oui, c'est ça en niveau 4.
Ouais. Ah, okay.
Ouais, fait quoi, ça fait longtemps qu'ils ont.
Ils ont depuis level 8, Greater Invisibility.
Niveau 18, là on s'entend, il y a peu de personnes qui se rendent à ce niveau-là dans leur campagne. Tu obtiens un blindsight de 30 pieds. Parfaitement utile, ça, ça change beaucoup de la classe.
Oui, surtout si tu te bats avec un longbow comme t'es supposé pour la fantaisie du ranger.
Et au tout, et aussi. Le niveau 20, là, attachez-vous bien à votre chaise. Là.
On disait toutes les classes deviennent pétées au niveau 20. Là.
Niveau 20, là, ton Hunter's Mark. Qui rajoute 1 des 6 de dégâts habituellement sur tes attaques, et bien maintenant rajoute 1 des 10.
À la place.
À la place.
Pas 1 des 6 et 1 des 10.
Ouais, non, c'est ça. C'est
1 des 6, 1 des 10. 3 attaques, je pense, le Ranger.
2. Il n'y a pas d'autres extra attaques qu'elle
soit plus tard. La seule troisième attaque que tu pourras avoir, c'est ta bonus action pour frapper avec ta main secondaire comme tout le monde.
Oui.
Wow.
Il y a juste le Fighter qui obtient 4 multi-attaques. Les autres sont à 2.
Même le Paladin?
Oui, le paladin est à 2 parce que c'est un half-caster. Ah,
peut-être barbare quand qui est en frenzy, qui peut faire son attaque frenzy.
Un barbare pas spécifique, oui.
Mais oui, donc, grosse amélioration au niveau 20. Là.
Attention, de sarcasme. Là.
Mais on parlait d'une troisième attaque avec la bonus action. C'est malheureusement une fantaisie que vous ne vivrez pas en tant que ranger parce que vous devrez toujours utiliser Hunter's Mark et déplacer Hunter's Mark avec votre bonus action parce que toutes les features de subclass build sur Hunter's Mark.
Presque. Il y en a une qui ne build pas sur Hunter's Mark et elle utilise ta bonus action. C'est le Beastmaster. On va donner un peu d'amour à ce qui avait besoin d'avoir d'amour. Là. Beastmaster, maintenant, pour contrôler ton compagnon animal, ce n'est plus une action pour le faire attaquer, mais une bonus action.
Et ça vit ce qu'il y a un petit peu. Il ne sera pas one-shot par une flèche.
Wow.
Oui. Ça vit ce qu'il y a un petit peu. Et c'est plus genre le stats block du monstre que tu invoques. C'est un stats block fixe qui augmente avec toi.
Dans la troisième édition, donc, ton familier avait la moitié de tes points de vie.
Ouais, ben c'est comme ça. Et pour le toucher, ben c'est, mettons, 1d8 plus 2 plus ton modificateur de wisdom. Donc le ranger est une autre classe qui build sur plusieurs stats.
Ah, la madness.
Vraiment, là. Vraiment,
très, très, très comme... déçu des améliorations. Autant j'étais heureux des changements pour le monk qu'il rendait valide en jeu. Autant le ranger, c'est comme, ben si tu veux utiliser quelqu'un qui tape à distance avec un arc,
fighter.
Prends un fighter, tu vas pouvoir taper 4 fois à l'arc à niveau 20. Prends pas le ranger.
Non, j'avoue que c'est là... à moi que vous voulez vous punir là, ou mettre ça en mode difficile.
À moins que la campagne soit une campagne où t'as besoin des skills de nature et compagnie, puis comme,
Pourquoi tu fais pas un druide à ce moment-là?
Ouais, tu peux faire, je veux dire, tu peux faire un druide ou un rogue wisdom, mais...
Bon, fait qu'à niveau égal, un ranger qui est quand même supposé être au front line, il a une moins bonne armure classe et moins de points de vie que toutes les autres classes de fighters, sauf le barbare.
Ouais.
C'est un demi-caster, donc comme le paladin. Donc,
il y a juste deux multi-attaques.
Il y a juste deux multi-attaques. Il a besoin de trois stats pour fonctionner.
Oui, parce que naturellement, la constitution est une stats un peu utile pour tout le monde. Là, surtout au début, si tu veux garder ton Hunter's Mark actif. Là,
Essayez pas de monter un Aragorn avec ça, parce que ça va être le personnage le plus...
Non, votre intel et votre charisme vont devoir être par terre pour que votre personnage fonctionne.
Oui, fait que ouais, non, c'est... Il n'y avait pas d'amour pour le Ranger dans... 5e édition, il n'y a pas plus d'amour pour le Ranger en 2024. Grosse déception.
En effet. Puis vous me dites, ben là, peut-être que c'est ça, il améliore tout. Non.
Non, non.
Même pas.
Hey,
non, non.
J'aurais aussi fait remarquer quelque chose pour avoir regardé les broadcasts quand ils annonçaient les nouvelles classes. Dans tous les broadcasts, il y a une des trois personnes autour de la table qui a dit « On aimait beaucoup cette classe-là, on aimait beaucoup la jouer. » Dans la cas du Ranger, il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit qui ressemble à ça.
Ah non, non. Non.
Mais c'est justement celle-là qui a besoin d'amour, pas les celles que t'aimes. C'est celles que t'aimes pas qu'il faut que t'arrêtes.
Ouais. Parce que ça, en fait, c'est que même dans la cinquième édition, ça a été un gros travail pour le DM pour rendre le Ranger viable. Et ben c'est encore le cas. Ils ont pas compris. Pas de nouvelles subclasses pour le Ranger, ce sont tous des subclasses soit tirées du Tasha, soit tirées du Player's Handbook. Donc,
c'est bon. Si vous aimez le
Mais
Rangers...
le Hunters a été revisité beaucoup.
Ouais. Si vous aimez le Rangers, ben, on s'excuse.
Parlez à votre DM, il y a moyen de s'arranger.
Ouais, c'est ça, là, parce que sérieusement.
Tout est encore dans les subclasses, mais j'avais vraiment pas le temps de rentrer dans le détail de chaque subclasse, donc.
Et non, parce que le temps est une ressource finie et le nôtre est pratiquement terminé.
Mm-hmm. Oui.
Donc, on va vous inviter à venir nous visiter au club de jeux de rôle et société de Sherbrooke ce soir pour notre soirée de jeux de société.
Petit shout-out aussi pour ceux qui passeraient dans le coin, c'est la collecte pour le bazar en ce moment. Donc, si vous avez des choses à ramener aujourd'hui ou jeudi la semaine prochaine pour faire des dons pour les gens qui arrivent, toujours apprécié.
Demain, c'est la guignolée sur le campus. Puis ben d'ici là, nous autres, on va aller vaquer à nos occupations diverses. On va vous souhaiter une bonne semaine et on va vous dire à la semaine prochaine.